Merci, bonjour à tous et merci d'être venus tôt le matin après cette soirée d'hier soir. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité parce que vous avez compris que je suis un peu l'intrus là, dans la famille. Mais la population des biologistes est une population avec laquelle j'échange malheureusement pas assez. Et c'est dommage parce que vous verrez qu'on a dérouté un peu certaines de vos pratiques pour nos pratiques à nous. Et notamment en termes de biologie d'urgence, les appareils délocalisés, la biologie délocalisée est très utile pour nous. Je vais vous montrer pour vous réveiller un petit peu et je vais demander aux gens qui sont dans la cabine technique d'enlever le son sur ce truc. Quelque chose pour essayer d'affûter votre sens de l'observation et votre sens clinique. Ça dure très peu de temps et vous allez me dire ce que vous pensez de ça. Voilà, donc vous voyez, ça s'est pris sur les réseaux sociaux, que j'ai trouvé ça presque par hasard. C'est le dernier marathon de Paris. Qu'est-ce que ça vous évoque comme diagnostic? Alors, il y a un trouble de l'équilibre, ça c'est clair, et c'est effectivement le truc le plus important. Il y a un dysfonctionnement majeur du système nerveux central. Un coureur à pied ou une coureuse à pied qui passe une finish line ne devrait jamais avoir de troubles neurologiques. Si vous avez des troubles neuro, vous devez vraiment vous inquiéter. Voilà, on va y revenir et vous verrez qu'il y a plusieurs diagnostics possibles qui vont de l'hypoglycémie à l'hyponatrémie en passant par l'hyperthermie maligne. Et puis vous voyez, regardez le regard de ce garçon, il n'est plus là, là. Il est plus là. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est très préoccupant. Juste à titre indicatif, le dernier marathon de Paris qui s'est couru il y a 2 mois, donc on était début avril, 44 hyperthermie maligne d'effort sur 50 000 participants. C'est énorme. Et il ne faisait pas extrêmement chaud. Alors, le plan de ma présentation, c'est le suivant. Je vais vous donner un petit peu de contexte. Les principales pathologies aiguës, on est là pour parler des pathologies aiguës. Je vais vous parler de l'aménorrhée secondaire, de la marathonienne par défaut d'apport calorique ou de l'anémie ferriprive. On va parler de l'hyponatrémie, parce que ça, c'est quelque chose qui est heureusement rare, mais dramatique. L'insuffisance rénale aiguë et de la rhabdomyolyse. L'hyperthermie maligne d'effort, ça, c'est quelque chose, malheureusement, je viens de vous le dire, auxquels on est de plus en plus confronté et on sera de plus en plus confronté, et puis quelques conclusions pratiques. Alors le contexte de tout ça, c'est effectivement le fait que, même si vous n'êtes pas spécialiste du sport d'endurance, vous avez dû quand même noter qu'il y a de plus en plus de gens de par le monde qui font des marathons, des semi-marathons, des courses de trail, etc. Et j'ai pris pour illustrer, alors j'aurais pu prendre plein de statistiques, mais pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu, il y a une application qui s'appelle Strava, que les cyclistes et les coureurs connaissent bien, qui permet en fait d'enregistrer toutes vos courses et de les poster sur une plateforme, et en fait on regarde quels sont les sports les plus téléchargés sur Strava dans le monde et en France. En 2023, la course à pied sort en premier, que ce soit au niveau mondial et au niveau français, et en troisième et quatrième position, vous avez le trail running et la marche. Donc tout ça pour vous dire qu'on fait face, en France et dans le monde, à beaucoup, beaucoup de gens qui pratiquent les sports d'endurance, et c'est très bien parce que c'est quand même si je vais vous montrer des choses un peu effrayantes aujourd'hui, c'est quand même très bon pour la santé, il ne faut quand même pas l'oublier. Et puis vous avez des pays émergents, entre guillemets, enfin ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus émergents, mais je prends l'exemple de la Chine parce qu'on fait beaucoup de choses en Chine, on fait beaucoup d'actions éducatives en Chine. En Chine, vous avez chaque week-end un demi-million, je dis bien un demi-million de personnes chaque week-end qui courent des marathons. Et en Chine, le jeu national, c'est d'arriver à trouver un dossard pour s'inscrire à un marathon. Voilà, je vous ai mis un article du Washington Post que j'ai piqué il y a quelques semaines là, dans les revues de presse et qui dit bien qu'effectivement c'est très très compliqué. Il y a une telle demande de gens qui veulent courir des marathons en Chine que les organisateurs ne savent plus faire face. Alors ça existe aussi en Europe, hein, pour le prochain marathon de Londres. J'espère que si vous êtes intéressé, vous avez déjà votre dossard parce qu'il y a 50 000 places et il y avait 800 000 demandes. Un autre point de contexte, c'est le réchauffement climatique. Alors j'ai pris cette diapositive, j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais vous allez voir que nous, sport d'endurance, ça nous impacte énormément. C'est que maintenant, on est aussi obligé d'apprendre la biométéorologie. Moi, j'y connaissais rien en météo et en biométéorologie, il a fallu que je me forme. Parce que quand on organise ou on a la responsabilité d'organiser des épreuves d'endurance, il faut tout de suite qu'on regarde quels sont les archives d'humidité, de température, de vent, d'exposition solaire, et s'attendre toujours au pire. C'est la loi de Murphy, il faut toujours prévoir le pire parce que c'est effectivement ce qui va arriver. Et comme on a un réchauffement climatique global et qu'on intervient dans toutes les régions du monde, eh bien très souvent, alors qu'on devrait avoir des climats tempérés, on a des températures élevées, et donc ça pose énormément de problèmes à nos sportifs d'endurance, les marcheurs, les marathoniens, etc. Alors, quelles sont les principales pathologies aiguës qu'on va essayer de voir ensemble et dans lesquelles, pour lesquelles la biologie délocalisée, la biologie d'urgence peut être utile? C'est l'hyponatrémie associée à l'exercice, que les anglo-saxons appellent « exercise associated hyponatremia », les pathologies rénales et musculaires, j'en dirai deux mots, et l'hyperthermie maligne d'effort, « exertional heat stroke ». On regardera rapidement l'épidémio, la physiopathologie, le diagnostic et le rôle de la biologie, et puis les traitements. Alors commençons par l'hyponatrémie. Nous, on définit, et je pense que vous, vous avez la même définition, une hyponatrémie liée à l'exercice lorsqu'on a une natrémie inférieure à 135 millimoles par litre durant ou dans les 24 heures qui suivent un exercice. Et le 24 heures qui suit est important parce que vous verrez que malheureusement, les symptômes peuvent se déclencher ou s'aggraver quelques minutes ou quelques heures après le passage de la ligne d'arrivée si la personne continue à s'hydrater de manière excessive, par exemple. Donc la physiopathologie, on va y revenir, mais pour faire très simple, même si ce n'est pas si simple que ça, c'est une hyperhydratation avec de l'eau plate, donc c'est une hyponatrémie de dilution essentiellement, donc hypervolémique, avec un syndrome inapproprié de production d'hormones antidiurétiques, et puis dans certains cas, on y reviendra aussi, une perte excessive de sodium, notamment par voie sudorale. La prévalence, elle est importante, mais c'est normal parce que ça dépend quel stade d'hyponatrémie on considère. Elle peut aller jusqu'à 50% dans les courses d'ultra-endurance. Donc ce qu'on appelle l'ultra-endurance, c'est ce qui va au-delà du marathon. C'est 60, 80, 100 km, les courses en montagne, les courses sur plusieurs jours, etc. Et de 1 à 22% sur les marathons. 22%, c'est quand même beaucoup. C'était une étude publiée en 2007. Mais vous voyez dans le petit cartouche en bas à droite que c'est quand même non négligeable. Alors, les facteurs de risque de cette hyponatrémie, ils sont relativement bien identifiés. C'est d'abord l'hyperhydratation. Ce sont des gens qui boivent, qui s'arrêtent à tous les relais et qui boivent systématiquement parce qu'on leur a dit, et entre parenthèses, c'est une grosse bêtise pour ne pas utiliser un mot plus grossier, qu'il fallait boire à chaque ravito. Ce sont souvent des sujets de sexe féminin, souvent des sujets de petit poids, de petite corpulence, et souvent des gens qui sont plutôt inexpérimentés et des coureurs lents, c'est-à-dire des gens qui vont passer beaucoup de temps sur le parcours, qui vont faire leur marathon en 4h30, 5h, 5h30, 6h. C'est ceux-là, et donc ils arrivent généralement en fin de cohorte, c'est ceux-là qui posent souvent des problèmes d'hyponatrémie. Aussi la consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, on y reviendra après pour les problèmes rénaux, et c'est malheureusement quelque chose qui existe dans le sport d'endurance, parce qu'on a beaucoup de coureurs qui ont des pathologies musculo-squelettiques et qui pensent qu'en prenant un petit Voltaren avant la compétition, ça va aller mieux. Ça, c'est pas génial, vous verrez pourquoi plus tard. Les symptômes, alors très important si vous devez retenir deux choses, des troubles cognitifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas normal d'avoir des troubles cognitifs quand vous terminez une course d'endurance. Ça doit vraiment alerter. Voilà, si madame, vous récupérez votre mari à l'arrivée du marathon et qu'il est apathique ou agressif ou qu'il fait un peu n'importe quoi, il faut le ramener à la tente médicale. Ça, c'est très important. Des céphalées, c'est pas très spécifique. Des nausées, des vomissements aussi. Parce que dans l'hyponatrémie, on a un œdème cérébral. Ça peut commencer par des nausées, des céphalées, des vomissements. Un gain de poids. Alors ça, nous, en recherche, c'est ce qu'on fait parce qu'on pèse nos marathoniens ou en pré-poste. C'est sûr que malheureusement, c'est pas fait systématiquement, ce qui est dommage parce que si on connaissait le poids des gens au départ, il suffirait de les peser à l'arrivée pour savoir que s'ils ont gagné du poids entre le départ et l'arrivée, c'est pas normal. Normalement, ils devraient arriver déshydratés, pas hyperhydratés. Donc quelqu'un qui a pris 2 kilos après un marathon, il a très certainement une hyponatrémie de dilution. Un œdème aigu du poumon, ça peut arriver dans les cas majeurs. On se retrouve dans un tableau d'hyponatrémie que vous connaissez. Et puis des crampes, mais ça, c'est pas très spécifique. Les diagnostics différentiels, et on en revient à notre petite vidéo du départ. L'hyperthermie maligne d'effort, on y viendra tout à l'heure, qui donne aussi des troubles cognitifs majeurs. L'hypoglycémie, qui, comme vous le savez, donne aussi, lorsqu'elle est profonde, des troubles du comportement et des troubles neuro. Et puis les perturbations digestives de l'effort, qui sont assez communes, de nausées, de vomissements, de diarrhées, qui ne sont pas très spécifiques, mais qui peuvent aussi, si vous avez quelqu'un qui arrive avec des douleurs abdominales et des vomissements, vous faire suspecter que ça soit peut-être une hyponatrémie. Mais encore une fois, faites attention aux troubles neurologiques, c'est très important. Donc il y a différents niveaux d'hyponatrémie, nous on les classifie comme ça, ceux qui sont entre 130 et 135, même si ce sont des hyponatrémies biologiques, elles sont cliniquement asymptomatiques, donc celles-là, elles passent inaperçues, et c'est pour ça, c'est celles-là qui rentrent dans les statistiques et qui font qu'effectivement on a des pourcentages élevés, on ne les traite pas, elles récupèrent spontanément, sans problème. Entre 125 et 130 millimoles par litre, elle est modérée, vous pouvez quand même avoir des signes à type de céphalée, de nausée, de vomissement. Et puis c'est surtout celles qui sont inférieures à 125, celles-là il faut absolument les traiter, parce qu'elles donnent des œdèmes pulmonaires, des œdèmes cérébraux, des troubles du comportement vraiment importants et des dysfonctionnements du système nerveux central. Alors, ce qui a beaucoup changé la donne pour nous depuis des années, c'est la disponibilité de ces petites merveilles technologiques que vous avez à droite, là, qui nous permettent de mesurer la natrémie dans l'attente médicale à l'arrivée. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prélever, d'envoyer l'échantillon à l'hôpital du coin, qui a peut-être autre chose à faire que ça, et puis d'attendre le résultat pour savoir ce qu'il faut faire. Donc ça, ça a vraiment été un game changer, et nous, on l'a vraiment intégré dans nos algorithmes décisionnels et dans nos bonnes pratiques. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on ne parle pas uniquement de marathon. Là, je vous ai mis, juste pour information, le tracé des avant-derniers championnats du monde de trail running, puisqu'on supervise aussi la course en montagne et trail running. C'était à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, en altitude, avec une humidité dont je ne vous parle même pas et une température dont je ne vous parle même pas, en plein milieu de la forêt tropicale. Donc, c'est sûr que quand vous avez à organiser le médical d'une course de 80 km dans la jungle, vous êtes aussi content d'avoir ce type d'appareil parce que le premier hôpital ou le premier laboratoire hospitalier, il est très loin. Donc voilà le type d'installation qu'on a. On a une ambulance, alors effectivement, vous allez dire oui, il y a une route, mais enfin, l'hôpital le plus près, il est quand même à 3 heures. Hein. Voilà. Et puis, on a nos collègues thaïlandais qui sont là, au milieu de la jungle, avec leurs petits appareils et leur matériel médical pour faire face au cas où. Alors, le traitement de l'hyponatrémie liée à l'exercice, en fait, ça dépend de la gravité, et donc ça dépend en fait de la natrémie. C'est pour ça que c'est important de mesurer la natrémie, ça va vous décider ce que vous allez faire comme traitement. Les hyponatrémies modérées, il faut restriction hydrique, c'est très important, il faut les empêcher de boire. Donc, madame, si vous récupérez votre mari à l'arrivée du marathon et qu'il est bizarre, ne lui dites pas « Ah, chérie, on m'a dit qu'il fallait que tu boives pour récupérer, lui filez pas la bouteille d'Evian à boire, il va s'aggraver. Hein, » d'accord. Donc restriction hydrique, et il faut les saler. Alors les saler par voie orale, donc avec des petits biscuits apéritifs, des chips, des bouillons cubes. Nous, on utilise beaucoup les bouillons cubes, on met 3-4 bouillons cubes, on fait un truc hyper salé, on les force à boire ça, et ça remonte assez bien la natrémie. Vous voyez qu'au niveau neurologique, ils s'améliorent bien, et on refait un contrôle de la natrémie 30 minutes après, et s'ils sont bien, on les décharge. Les hyponatrémies plus sévères, ceux-là, il faut les traiter par voie IV. Donc, on prend un sérum salé hypertonique et on pousse 3 grammes de sodium en environ 20-30 minutes, même si ça m'est arrivé quelquefois de le faire beaucoup plus rapidement, même si ce n'est pas les bonnes pratiques médicales. Si vous poussez 3 grammes de sodium, vous allez augmenter votre natrémie d'environ 3 points. Donc, quelquefois, 3 grammes, ça ne sera pas suffisant. Il faudra repousser 3 grammes derrière. D'accord ? Et là aussi, vous recontrôlez votre natrémie, vous recontrôlez l'évolution de votre statut mental, cognitif, et si vous êtes prudent, vous le renvoyez à l'hôpital. Si vous savez que l'hôpital du coin est surchargé pas loin, vous le renvoyez à la maison avec quand même quelques consignes, toujours de restriction hydrique et de surveillance. Et donc, ce que je vous disais, le game changer pour nous, c'est ça, c'est que quelqu'un qui arrive, un coureur qui vomit ou qui a des altérations du système nerveux central, avant même de lui poser une perf, vous lui mesurez la natrémie. Ça, c'est fondamental. Et on a beaucoup de mal avec ça, hein, avec nos collègues. Hein. Parce que sinon, s'ils ont une hyponatrémie et que vous leur passez un sérum FI, vous les aggravez. Hein, vous les aggravez. Il faut les mettre en restriction hydrique. Donc, c'est très, très important. Alors, rapidement, différents types d'hyponatrémie. Je vous ai parlé là de l'hyponatrémie hypervolémique. Hein, mais on a aussi une hyponatrémie hypovolémique, et c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est-à-dire que vous pouvez être en hyponatrémie et pour autant être déshydraté. Et ça, c'est surtout l'apanage des sports d'ultra-endurance. Donc ce n'est pas des hyponatrémies de dilution, c'est des hyponatrémies par perte sodée importante, et notamment liée à la sudation, sur des efforts qui durent 5, 6, 8 heures, etc. Okay. Donc c'est un contexte physiopathologique un peu différent, mais faites attention, si un jour vous recevez des échantillons, parce que dans votre région, il y a un ultra-trail ou il y a une course ultra-endurance, vous pouvez avoir des gens qui sont à la fois hyponatrémiques et pour autant déshydratés. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et je vous montre en fait cette étude de Martin Hoffman, là, qui est un de ceux qui a le plus publié sur la biologie des sports d'ultra-endurance et du trail, etc. Et vous voyez bien, si vous regardez les points noirs, qu'en fait, le pourcentage de gens qui sont déshydratés, il est positivement corrélé à l'incidence de l'hyponatrémie. Donc dans ce contexte, et j'insiste, dans ce contexte d'épreuve d'ultra-endurance, il n'est pas rare d'avoir des hyponatrémies hypovolémiques avec des gens déshydratés. Pourquoi ? Parce que simplement, ils perdent beaucoup de sel et ils n'arrivent pas à compenser. Et dans ce cas-là, c'est justifié, et uniquement dans ce cas-là, à mon avis, de les supplémenter pendant l'épreuve et après l'épreuve en sel et de leur donner ce que les militaires savent depuis bien longtemps, des pastilles de sel. Donc les messages de prévention, voilà, monsieur... Si madame va courir un marathon pour la première fois, et on lui a certainement dit qu'il ne faut pas qu'elle attende d'avoir soif pour boire. Excusez-moi l'expression, c'est une connerie. Il faut arrêter ça. Il faut boire quand la sensation de soif arrive. On a malheureusement, pendant des dizaines d'années, enseigné ça. C'est une bêtise, donc maintenant on a revu nos positions. Pas d'hyperhydratation systématique. Vous buvez, vous vous arrêtez si vous sentez que vous commencez à avoir soif. Donc c'est souvent, chez le marathonien débutant, diagnostic de la prise de poids, je vous ai dit, c'est facile à faire, mais pas tant que ça, parce qu'on n'y pense pas, et boire uniquement lorsque la soif pointe. Donc ça, c'est l'hyponatrémie hypervolémique de la marathonienne débutante, pour faire simple. Et puis vous avez l'hyponatrémie hypovolémique du trail runner qui va faire 4 courses, ou le marathon des sables, ou des choses qui font 180 km en plusieurs jours, qui va avoir des pertes sudorales sodées très importantes, non compensées. Il peut avoir une déshydratation, il aura certainement une perte de poids. Donc en termes de perte de poids, on parle en pourcentage poids de corps, on considère que 2 à 3% de poids de corps perdu en déshydratation, c'est encore acceptable. Le 3%, c'est commence à devenir un peu critique. Et donc il faut probablement des apports sodés pendant l'épreuve et à la récupération, bien sûr. L'insuffisance rénale aiguë, quelques mots. Je vous ai mis une photo du marathon des sables. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais là aussi, ça devient très populaire. C'est des gens qui partent dans des endroits extrêmes et qui font sur plusieurs jours des trucs dans une chaleur importante. Et puis, quelquefois, avec de la dénivelée, et ils sont en semi-autonomie alimentaire et hydrique, ce qui peut aussi poser problème. Alors, ce tableau est un peu compliqué. Regardez simplement, ça c'est les insuffisances rénales aiguës, et regardez simplement ce qui se passe sur la dernière ligne ici. Donc c'est une espèce de méta-analyse où vous avez au total 18 études qui sont compilées, avec en moyenne, voilà, on parle quand même d'épreuves qui durent plus de 120 km, donc c'est quand même pas n'importe quoi, des dénivelés positifs ou négatifs de 3500 mètres, plus ou moins 3000 mètres, donc ça peut être quand même assez violent. Le nombre, la population, et en fait, voilà, les risques. Vous voyez que vous avez un nombre significatif de gens qui sont en risque d'insuffisance rénale, des insuffisances rénales de grade 1, c'est-à-dire une créate qui monte à une fois et demie, deux fois la normale. Vous en avez quand même pas loin de 7%. Et heureusement, et c'est ce que vous devez retenir, en fait, il y a très peu de gens qui développent des insuffisances rénales gravissimes. Mais ça peut arriver. Et ça arrive d'autant plus que vous avez des gens qui répètent des efforts dans des ambiances chaudes, etc. etc. Je vous expliquerai comment dans quelques secondes. Alors, c'est souvent un peu chronique d'une catastrophe annoncée. Vous avez très souvent un enchaînement de choses. Alors, d'abord, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une hyponatrémie. L'hyponatrémie va créer une fragilité cellulaire, et notamment au niveau des cellules musculaires, et donc favoriser les micro-dommages musculaires. Ce faisant, vous allez favoriser la survenue d'une rhabdomyolyse. Cette rhabdomyolyse va avoir un impact négatif, vous le savez mieux que moi, sur le rein, et commencer déjà son travail. Là-dessus, vous avez une déshydratation qui peut arriver, et donc, en plus, un rein qui commence à souffrir. Si vous avez une personne qui a une condition médicale préexistante, comme une hypertension artérielle, ou qui a une myopathie, alors, c'est rare d'avoir une myopathie et de faire de l'ultra-endurance, mais vous pouvez avoir, par exemple, une infection à cytomégalovirus, et vous savez que le CMV a un tropisme particulier sur le muscle et donne des sortes de myopathies virales. Donc ça peut être problématique. Donc tout ça, vous avez aussi, si vous avez une infection intercurrente, vous avez un état inflammatoire de bas grade qui va aggraver tout. Et puis surtout, 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 et ça j'insiste là-dessus, la consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens va aggraver le tableau. Donc là, vous avez un mélange explosif qui fait que vous risquez d'avoir des insuffisances rénales aiguës qui, je voudrais quand même vous rassurer, pour 99% d'entre elles, récupèrent spontanément sans séquelles. Le grand barbu a bien prévu les choses, il nous a quand même mis un système très redondant et il semble que le rein soit quand même un système qui régénère et qui récupère très vite, en tout cas de ce type d'aventure. Mais c'est quand même à ne pas négliger, notamment chez des gens, et là on ne sait pas encore très bien, des gens qui enchaînent des épisodes comme ça au fur et à mesure des compétitions et des entraînements, est-ce qu'à moyen long terme ça n'a pas un effet délétère sur la fonction rénale? On n'en est pas sûr certain quand même. Alors, sans se lancer dans des choses très compliquées, d'aller mesurer la créatinine, etc., parce que je vous ai dit qu'au final, la plupart d'entre eux récupéraient bien, un truc qui marche très bien, c'est les bandelettes urinaires. Hein, et même si vous ne pouvez pas mesurer la créat, quand vous mesurez les bandelettes urinaires, il y a une étude, pareil, de l'équipe de je vous ai cité tout à l'heure, qui montre qu'avec des bandelettes urinaires, si vous appliquez des règles simples, c'est-à-dire une densité supérieure à 1,025 et une protéinurie supérieure à une croix, ben vous avez une sensibilité et une spécificité qui sont supérieures à 80% pour prévoir une insuffisance rénale de grade 1. Alors, c'est plus documenté qu'autre chose, parce qu'encore une fois, vous n'allez pas forcément traiter ça. Hein, c'est quelque chose qui va normalement récupérer spontanément, mais c'est quand même bien de le savoir. Autre chose, et je terminerai là-dessus, vous allez me dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec la biologie. Vous allez voir que si, quand ça commence à tourner mal, les biologistes peuvent voir arriver des prélèvements très très bizarres. C'est l'hyperthermie maligne d'effort, ce que les anglo-saxons appellent le exertional stroke. J'aime bien cette photo, c'est l'armée britannique en Irak en 1943. Et donc vous voyez que déjà, ils avaient compris qu'il fallait, c'est un soldat britannique qui a fait manifestement une hyperthermie maligne et qu'on traite en l'aspergeant d'eau froide, et vous allez voir qu'on n'a fait pas beaucoup mieux maintenant. Ceci étant dit, l'hyperthermie maligne d'effort, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Les chasseurs-cueilleurs, quand ils chassaient les animaux, en fait, ils utilisaient ça sans le savoir. C'est-à-dire que si vous poursuivez un animal qui a des capacités sudorales moindres que les vôtres, qui n'a pas la capacité de sudation, comme la plupart des mammifères, hein, l'homme est quand même une exception, et bien au bout d'un moment, si vous êtes en ambiance chaude, vous allez déclencher chez lui une hyperthermie maligne et vous pourrez l'attraper et le tuer. Et c'est comme ça que les chasseurs, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, poursuivaient leur proie pendant des heures et des heures, les harcelaient, et à la fin, l'animal tombait d'épuisement et d'hyperthermie maligne. Est-ce que la viande était meilleure à consommer? Je ne sais pas. Donc la définition de l'hyperthermie maligne d'effort, elle est très simple. C'est deux critères. C'est une altération cognitive et une altération du système nerveux central. Je l'ai mis en rouge parce que c'est une condition essentielle, il faut l'avoir. Et une température centrale mesurée de manière rectale ou œsophagienne, mais pas par voie cutanée, hein, supérieure à 40 degrés Celsius. Il faut que vous ayez ces deux conditions. Nous, on a démontré qu'on a des marathoniens ou des marcheurs ou même des cyclistes qui tolèrent très bien des températures centrales à 41,5. Mais ils n'ont pas d'altération de la fonction cognitive ou neurologique et donc ce ne sont pas des hyperthermies malignes. Il faut le laisser tranquille, cela. Par contre, si vous avez quelqu'un qui passe la ligne d'arrivée, comme la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, un des premiers trucs que vous devez faire, c'est lui mesurer la température centrale. Et celui-ci, je pense que c'était vraisemblablement une hyperthermie maligne d'effort. L'incidence de l'hyperthermie maligne d'effort, elle est importante et elle est croissante pour des raisons évidentes de réchauffement climatique. Vous voyez que chez les coureurs amateurs, c'est entre 1,6 et 2,1 pour 1000. Hein. Chez les militaires, c'est un petit peu plus. Ça peut aller jusqu'à 10 pour 1000 pour des raisons évidentes, parce qu'ils sont exposés à des conditions environnementales difficiles. Et c'est ce qu'on a, nous, c'est des données non publiées sur nos cohortes d'athlètes élites, des marathoniens élites, des marcheurs élites. Donc c'est grosso modo 1%. Pour vous donner une idée, moi, quand j'organise des championnats du monde et que j'ai un marathon homme, un marathon femme et deux ou trois courses de race walk, je sais que je vais avoir à traiter entre 6 et 8 hyperthermies malignes d'effort. C'est le tarif. Voilà, ça a été très bien modélisé par nos collègues américains il y a de ça bien longtemps. Et on sait qu'en fonction de la température de l'air ou de l'humidité, il y a le même graphe avec l'humidité, on sait à peu près à combien s'attendre d'hyperthermie. Ça, c'est important pour les gens qui organisent des compétitions. J'ai essayé de dissuader les organisateurs de Paris 2024 de faire le marathon pour tous, qui aura lieu à Paris entre le marathon homme et le marathon femme, parce que je pense que c'est une hérésie, parce que vous allez faire courir 40 000 personnes en plein été, en leur disant, si vous faites ça, voilà le nombre d'hyperthermie maligne que vous allez avoir, donc il vous faudra environ 60 à 80 bains froids et 4 fois plus de personnel. Bon, malheureusement, ils ne vont pas trop écouter, ils vont le faire, donc... Si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui va courir le marathon pour tous, dites-lui d'y aller très très lentement. Pourquoi c'est important ? Parce que l'hyperthermie maligne d'effort, ça tue. Et ça tue en fait plus que les arrêts cardiaques. Alors tout le monde parle des arrêts cardiaques, mais c'est une condition qui est létale. Et la mortalité, c'est environ 27% si c'est mal pris en charge. Et quand ça tue pas, ça peut laisser des séquelles gravissimes. Alors la physiopathologie, je vais passer rapidement... Vous avez une augmentation de la température centrale avec une sollicitation vasculaire et cardiaque importante, une redistribution des flux sanguins avec une spoliation, vous le savez, au bénéfice des territoires cutanés, puisqu'en fait on privilégie la thermorégulation. Et de ce fait, vous avez certaines régions du corps, dont le tube digestif, qui se retrouvent hypoperfusées. Cette hypoperfusion peut, si elle persiste pendant longtemps, induire une translocation bactérienne, une perméabilité membranaire, vous connaissez ça mieux que moi, avec une réponse systémique inflammatoire, syndromique, une coagulopathie associée, et là ça commence vraiment à tourner vinaigre. Quand vous avez ça, vous avez éventuellement une défaillance polyviscérale en vue très rapidement. Et c'est pour ça que ces patients-là, s'ils ne sont pas bien traités dès le début, ils terminent en soins intensifs et ils passent 2, 3, 4 semaines en soins intensifs. Alors qu'on aurait pu les traiter sur place et qu'ils seraient rentrés chez eux le soir, retrouver leur époux ou leur épouse. Les conséquences à long terme, je vais passer rapidement là-dessus, elles sont importantes parce qu'il y a des études, notamment américaines ou chinoises, qui montrent que chez les gens qui ont eu des hyperthermies d'effort ou des hyperthermies tout court, on retrouve par rapport à une population contrôle sur un suivi de 14 ans, plus d'événements cardiovasculaires, plus de coronaropathie, plus d'infarctus du myocarde, plus d'AVC, plus de pathologies rénales chroniques. Donc c'est quelque chose qui va laisser des traces, qui va laisser des séquelles au niveau viscéral. C'est pas anodin de faire une hyperthermie maligne d'effort. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Une autre étude, c'est des Américains qui avaient comparé, c'est une très belle étude, parce qu'ils ont comparé des militaires qui ont fait une hyperthermie maligne d'effort versus des autres militaires qui avaient eu une appendicite. Donc en fait, ils ont comparé deux situations inflammatoires, on va dire, et deux situations où la température centrale avait été augmentée de manière, on va dire, à peu près similaire. Et vous voyez que quand on regarde les pathologies cardiovasculaires, les maladies hépatiques, les maladies rénales, les risques relatifs sont quand même beaucoup plus importants. Donc il vaut mieux avoir une appendicite qu'une hyperthermie maligne d'effort. Comment ça se traite ? Alors, ça se traite de manière très simple. C'est une immersion dans de l'eau froide. Donc on prend de l'eau entre 2 et 10, 12 degrés et on immerge le patient à l'intérieur. Préalablement, il faut avoir mis une sonde rectale pour un relevé de la température. Et on monitore. D'accord ? Donc si vous avez quelqu'un qui passe la ligne d'arrivée, qui a plus de 40 degrés Celsius, qui a des troubles neuro, immédiatement, et c'est vraiment immédiatement, il faut le mettre là-dedans. D'accord ? Chaque minute compte parce que c'est l'air sous la courbe passé à une température élevée qui conditionne le pronostic et la survenue de conséquences à long terme. D'accord ? Et puis vous attendez que la température centrale descende à 39 degrés et quand elle est à 39, c'est un peu comme le four, vous le sortez, il est prêt. Voilà. Donc vous pouvez faire ça dans des choses solides, dans des bains gonflables ou dans des sacs à cadavres. Ça marche très bien aussi. Bon, en plus, si vous échouez, il est déjà dans le sac, c'est bien. Voilà. Donc ça marche aussi très bien. L'avantage du sac à cadavres, c'est que vous avez besoin de moins de glace et moins d'eau. Donc ça se fait vraiment en ambulatoire. Bon, je vous ai mis une diapositive sur les taux de décroissance de la température centrale, mais en gros, on ne va pas tergiverser, il faut de l'eau froide, dans de l'eau avec de la glace, entre 2 et 10, 12 degrés. C'est très important de faire ça rapidement. Voilà. D'où, en fait, ce que les Américains nous ont appris depuis bien longtemps, c'est ce qu'ils appellent le cool first, transport second. Ces gens-là, il ne faut surtout pas les envoyer à l'hôpital. Vous les tuez. Et ça, alors en France, nous, on a la culture de la médecine d'urgence, mais dans des pays comme les États-Unis, vous savez qu'il y a un paramédic qui arrive, ils vous foutent les gens dans l'ambulance et puis ils envoient à l'hôpital. L'hôpital ne va pas avoir l'idée de mesurer la température, et quand même ils le feraient, ils ne sont pas capables de mettre en place un traitement comme ça, hein, parce qu'à part les services de réanimation qui traitent les hyperthermies aux neuroleptiques, etc., donc c'est quand même très rare, vous allez perdre des heures et des heures, et pendant ce temps-là, la personne fait une défaillance polyviscérale. Donc les facteurs de risque de cette hyperthermie maligne d'effort, c'est une infection récente ou intercurrente, ça c'est très important. On pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a un trigger, si quelqu'un a eu une infection récente, il y a quelque chose qui se passe, et on a noté vraiment que très souvent, les gens qui finissaient dans le bain froid, c'est des gens qui, dans les jours qui précédaient, avaient eu une gastro-entérite, un petit rhume, ou une infection au Covid. Si vous avez déjà fait une hyperthermie maligne, vous avez plus de chances d'en refaire une. Voilà les risques. Hein. 3,3 fois plus de chances dans les 2 ans qui suivent et 1,3 fois plus de chances dans les 3 à 5 ans qui suivent. Donc ça fait partie des choses que vous devez demander. Si vous êtes un sujet âgé, parce qu'il y a une diminution de la fonction cardiovasculaire et des aptitudes sudorales, si vous êtes en surpoids ou avec une masse grasse importante, parce qu'il y a une isolation des tissus et puis probablement aussi parce que vous avez une inflammation systémique de bas grade, lié, vous le savez, avec les tissus gras autour des viscères, et puis le manque d'acclimatation à la chaleur. Alors, je n'ai pas le temps de détailler ça, peut-être on verra dans les questions s'il y en a. On peut s'acclimater à la chaleur. Hein, ça se travaille. Comme on peut s'acclimater à l'altitude, on peut s'acclimater à la chaleur. Et nous, on recommande à nos athlètes, quand ils vont faire des compétitions en ambiance chaude, de faire un programme d'acclimatation à la chaleur. Alors, je vous ai parlé dans ce petit schéma physiopathologique de ça, mais si vous regardez bien, il manque quand même un acteur important, là. Et l'acteur qui manque, c'est le cerveau. Parce que cette hyperthermie maligne d'effort, elle va aussi avoir des effets sur le cerveau. Et alors, on a cru pendant longtemps que ça crée des dommages hypothalamiques. Probablement pas, mais il y a quand même une altération qui se fait au niveau hypothalamique sur les centres de régulation de la température centrale. On a une altération des cellules du cervelet, et c'est pour ça que vous avez une ataxie. Vous avez vu la petite vidéo inaugurale. Forcément, quand le cervelet ne fonctionne plus très bien, vous n'arrivez plus à tenir debout. Vous avez un œdème cérébral, et donc souvent, quand ça touche les lobes frontaux, vous avez des troubles du comportement. Là aussi, quelqu'un qui croise la ligne d'arrivée et qui est agressif, c'est pas normal. Ou qui est apathique, c'est pas normal. Donc on a très souvent des troubles du comportement. D'ailleurs, quand on les plonge dans le bain d'eau froide, souvent, là, la photo que je vous ai montrée, ils étaient deux. Normalement, on est quatre, hein, parce qu'il faut les tenir, ils sont pas d'accord. Hein. Perte de discrimination de la substance grise blanche, ben, je vais vous... et des microthromboses. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le pire des cas? Ça donne ça. Bon, ça, c'est pas terrible. Hein. Donc ça, c'est, vous voyez que... Vous n'avez pas besoin d'être anatomopathologiste pour comprendre que ça laisse quand même des gros dégâts au niveau cérébral. Alors pourquoi une charge thermique est plus ou moins bien tolérée? Ça, on ne sait pas très bien, on est encore en train de chercher, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui tolèrent très bien 41,5, 42 degrés, et puis qui terminent sans problème neuro, et d'autres pas. On pense quand même que c'est un enchaînement de choses, et ce que les anglo-saxons appellent le multiple heat hypothesis, c'est-à-dire qu'au début, vous avez une situation qui a faible risque d'hyperthermie maligne d'effort, c'est-à-dire qu'il ne fait pas particulièrement chaud, particulièrement humide, et puis vous avez une activation du système immunitaire. On pense que c'est quand même le primum movens, c'est ça, c'est soit une inflammation de bas grade, soit une infection méconnue ou négligée, qui fait office de primer. Et puis par-dessus, vous avez des cellules qui sont sensibilisées au stress thermique, une activation du système immunitaire. Et puis au final, vous avez une hyperthermie maligne d'effort. Donc nous, on le voit parce qu'on essaye de trouver des modèles prédictifs en fonction de la température, de l'humidité, de type d'événement, de la vitesse à laquelle les gens courent, etc. Et en fait, dans une analyse statistique, on arrive à expliquer qu'une toute petite partie de la variance. Et donc on pense que la grosse partie qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est justement ça, c'est des facteurs intrinsèques aux patients, et notamment l'existence d'une acclimatation et l'existence d'une inflammation ou d'une infection intercurrente. Donc le mécanisme exact est encore mal connu. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de traduire ces diapositives en français, mais en gros, pour vous expliquer que aussi, et c'est là où quand ça tourne vinaigre, ça peut vraiment sentir pas bon, c'est que vous pouvez aussi avoir, si vous tardez à traiter ces patients-là, un choc endotoxémique. Puisqu'en fait, vous avez une spoliation circulatoire au niveau du tube digestif, et donc une augmentation de la perméabilité membranaire. En même temps, à cause de l'hyperthermie, vous avez des dommages endothéliaux vasculaires qui peuvent donner des thromboses et des troubles de la coagulation qui sont votre quotidien. Et puis ça, si ça persiste dans le temps, vous avez une défaillance multiviscérale et les gens terminent en réa avec des insuffisances rénales, des insuffisances hépatiques, des troubles de la coagulation, des CIVD. Enfin, c'est catastrophique, hein. C'est vraiment catastrophique. Et d'ailleurs, ceux qui sont maltraités, quand ils récupèrent, souvent, 6 mois plus tard, c'est la greffe hépatique. Donc vous voyez que c'est quand même lourd de conséquences. On ne sait pas très bien quel est le rôle ou quel est le timing de la libération des endotoxines. Je pense qu'il y a encore des choses à découvrir. Et ce qu'on pense, c'est que, en fait, c'est quand vraiment il y a une saturation du foie, puisque vous savez que le foie fait un rôle de filtre des endotoxines. Quand le foie est saturé, à ce moment-là, il laisse passer dans la circulation les endotoxines, et c'est là où vous avez vraiment la défaillance multiviscérale. Voilà, j'aime bien cette petite diapositive parce qu'elle montre bien qu'en fait, vous avez les endotoxines qui partent du tube digestif, qui sont filtrées au travers de la circulation porte par le foie, et le foie fait son rôle de filtre, et puis au bon moment, il ne peut plus, et il laisse passer dans la circulation les endotoxines, et là, ça sent vraiment pas bon. Les problèmes coronariens, je vais passer très rapidement dessus parce que vous auriez pu me dire « oui, mais alors, vous n'avez pas parlé des problèmes coronariens ». En fait, ce n'est pas tellement notre préoccupation parce que d'abord, les angines de poitrine à l'arrivée, il n'y en a pas. C'est plutôt des morts subites ou des arrêts cardiaques parce qu'ils font des troubles du rythme, des défibrillations ventriculaires et donc on les traite comme tels. Est-ce que ça vaut le coup de mesurer les troponines ? Non. Parce qu'on n'aura que des faux positifs, ça vous le savez mieux que moi. Donc ça n'a aucun intérêt, c'est le graphe que je vous ai mis là. Et je passe rapidement là-dessus, ça, j'ai pas le temps parce que je préfère laisser du temps pour les questions, pour vous montrer que l'incidence des morts subites dans les marathons ou des arrêts cardiaques dans les marathons, c'est entre 0,5 et 2 pour 100 000 par an. Si vous vous rappelez les incidences que je vous donnais sur l'hyperthermie maligne, on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus élevés. Bon, je passe rapidement là-dessus, c'est pour vous dire que les Japonais ont beaucoup étudié ça. En fait, les problèmes cardiovasculaires arrivent surtout dans le dernier quart du parcours. C'est au départ parce qu'il y a le stress adrénergique avant que les gens partent et quelques kilomètres avant la ligne d'arrivée ou juste après la ligne d'arrivée. Donc c'est là où vous devez disposer vos défibrillateurs, faut en avoir partout. Les Japonais en mettent tous les kilomètres et c'est pour ça qu'ils ont des taux de ressuscitation extraordinaires. Mais c'est surtout si vous n'avez pas beaucoup de défibrillateurs, c'est vers la ligne d'arrivée ou pas loin de la ligne d'arrivée que vous devez les mettre. Je vais passer rapidement, comme ça laissera un peu de temps aux questions. Les conclusions pratiques. Donc, c'est que vous avez, j'espère vous a convaincu, il y a un développement rapide, pour ne pas dire exponentiel, des sports d'ultra-endurance et d'endurance, qu'on a une américanisation du profil des participants. Par américanisation, j'entends le fait que ce qui est aux États-Unis, vous savez, arrive chez nous 5, 10, 15 ans plus tard. En France et en Europe, on a encore un profil un peu compétitif, c'est-à-dire que les gens qui vont s'inscrire sur des marathons, des semi-marathons ou des trails s'entraînent et le font quand même à peu près sérieusement. Et on commence à voir, comme c'est le cas aux États-Unis depuis longtemps, en fait, ces activités sont considérées presque comme des activités sociales et donc vous avez des obèses, des femmes enceintes, des hypertendues, des diabétiques qui participent. Et ça pose problème parce que ce sont des gens avec des comorbidités préexistantes et comme je vous l'ai montré, ça favorise la survenue de ces problèmes-là. Donc malheureusement, il faut aussi qu'on fasse... Alors c'est très bien, hein, parce que encore une fois, on est content que ces gens-là fassent de l'exercice physique régulier, mais nous, en termes de gens qui sont de l'autre côté dans la tente médicale, il faut qu'on soit prêt à faire face à ça. Le réchauffement climatique, ça c'est vraiment quelque chose qui nous pose énormément de problèmes pour les épreuves d'endurance, et malheureusement, ça ne va pas s'améliorer. On a des urgences vitales et des pathologies spécifiques à l'ultra-endurance, j'espère vous avoir convaincu de ça. Le traitement sur place est la préférence. Parce qu'on n'a pas de temps. Une hyperthermie maligne d'effort, il faut la traiter sur place. Une hyponatrémie, il faut la traiter sur place. Parce que ça conditionne le pronostic vital ou les conséquences à long terme chez ces patients. Et puis, on n'a pas envie d'aller embouteiller les services d'urgence qui ne sont pas équipés, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas le temps ou qui vont mettre des heures ou des heures à traiter ces gens-là. Il y a un apport très net, en tout cas, j'espère vous avoir convaincu pour nous, de la biologie délocalisée. Ça a vraiment été, en particulier pour la natrémie, ça a vraiment été très, très, très important. Et on a donc des point of care devices dans les tentes médicales. Voilà à quoi ressemble une tente médicale. Donc, on n'est pas loin de la médecine militaire. Ça, c'était nos champions du monde à Doha. Alors, vous me direz, certes, c'était Doha, au Qatar, donc il faisait chaud. Mais voilà, maintenant, nous, ce qu'on exige, quoi. Donc, vous voyez qu'on est sur des hôpitaux militaires de campagne, quasiment, quoi. La gestion de la natrémie et les règles de perfusion, c'est très important. Et encore une fois, si on n'avait pas les point of care devices, on ne pourrait pas faire ça correctement. Donc pour nous, ça a été vraiment très, très important. Effectivement, vous pouvez aussi diagnostiquer, mais ça, vous avez besoin d'un petit glucomètre, ça suffit, les hypoglycémies. Et puis, quand ça tourne mal ou que vous êtes isolé au milieu de la jungle thaïlandaise, vous êtes quand même bien content d'avoir un minimum de biologie délocalisée parce que si vous avez une hyperthermie maligne d'effort qui est mal gérée ou qui a été tardée à être prise en charge et que vous avez un début d'atteinte viscérale multiple, c'est quand même sympa d'avoir une créatinine, d'avoir quelques paramètres biochimiques supplémentaires. Quand vous avez des troubles de la coague, quand vous avez une rhabdomyolyse, si vous avez une insuffisance rénale, même si je suis relativement optimiste sur la plupart de ces insuffisances rénales, sauf chez les gens qui abusent des AINS, si vous avez des déséquilibres acido-basiques, et puis vous avez quand même autour de ces manifestations du public. Alors autant je vous ai dit que le dosage de la troponine pour les participants, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais enfin quand vous avez du public, plusieurs dizaines de milliers de personnes autour, ou même des volontaires, hein, qui sont quelquefois pas tout jeunes, c'est bien de pouvoir, si vous avez un syndrome de menace, mesurer une troponine pour être sûr que la personne n'est pas en train de faire un infarctus du myocarde. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'étais un peu vite, mais comme ça nous laisse 4 minutes pour les questions.